Vous écoutez
RMC.
Polo Breitner nous rejoint, évidemment, pour faire le point sur ce qui se passe en Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne. Décision donc assez tardive, hein, finalement. C'est le dernier championnat européen à décider d'arrêter.
Si tu le permets, mon cher Gilbert, c'est juste lunaire ce qui se passe en Allemagne,
oui,
qui montre l'inorganisation complète du foot allemand. Et je vais essayer de te résumer en deux minutes.
Pour une fois que les Allemands sont pas organisés.
Ah, mais justement, je pense que par rapport, oui, mais nous, si tu veux, mon cher Gilbert, quand on était à l'école avec Daniel, enfin, tu sais, notre génération, j'ai envie de dire des années 70, et la façon dont on nous parlait de l'Allemagne, je pense qu'il va falloir déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans la tête durant les années 70. Et je voudrais juste essayer de, si tu veux, je vais vous parler évidemment de la journée d'aujourd'hui, mais juste ce qui s'est passé rapidement toute cette semaine pour vous montrer le côté complètement lunaire de la situation allemande. Le week-end dernier, c'est Christian Seifert, donc le directeur général de la Ligue, qui représente donc la Bundesliga et la seconde division, qui annonce qu'il n'y avait aucune raison objective de ne pas continuer les compétitions avec ou sans spectateurs et qu'on devait absolument respecter le calendrier. En début de semaine, t'as le président de l'Union de Berlin, Sinclair, qui annonce que le match Union-Bayern, finalement, ce sera devant les supporters. Le lendemain, la ville de Bayern, parce que la ville de Berlin, pardon, parce que vous savez que c'est un pays fédéraliste, décide finalement qu'on aura le huis clos. Ensuite, partout en Allemagne, on a des informations qui concernent des joueurs pros qui ont contracté le virus. Il y a des rumeurs partout, y compris le coach de Paderborn qui finalement est testé négativement, mais il y a un de ces joueurs qui est chopé. Il y en a un autre à Nuremberg, etc., etc. Ce matin, pour en revenir à la journée, la DFL, annonce qu'il y aura une pause après la 26e journée. Donc, on aura toujours ce week-end devait théoriquement se jouer et qu'on fera une pause jusqu'au 2 avril. Les joueurs commencent à se plaindre et à envoyer des tweets, etc. Thiago Alcantara, notamment le joueur du Bayern Munich, tweet sur la nécessité absolue d'arrêter les matchs. On a le gardien de l'Union de Berlin, Rafael Gikiewicz, qui estime qu'on a traité les joueurs comme des singes dans un cirque. En gros, on s'est occupé des spectateurs, on a confiné qui il fallait confiner, personne dans les stades, mais personne s'est occupé des joueurs et que eux avaient extrêmement peur parce qu'ils discutaient entre eux, évidemment, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne pouvaient pas attraper le virus non plus. On apprend ensuite que on apprend ensuite que la ville libre de Brême décide d'annuler la rencontre entre le Werder et l'Everkusen. Donc vous voyez qu'on n'a aucune harmonisation décisionnelle sur l'ensemble du pays.
Mais ça, en fait, Polo, ça c'est en fait la conséquence de la décentralisation allemande.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que
tout le temps que c'est trop centralisé.
Ouais. Et là, tu as le modèle fédéral de l'autre côté. Vois ce que c'est.
Bon,
et
selon moi, a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais
ça dépend quand tu es dans des logiques comme ça quand tu es dans des logiques de terrorisme, par exemple, où t'as les régions qui ne se parlent pas entre elles. Je peux t'assurer que c'est mieux, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus intéressant le système centralisé à la française. Je finis juste. Karl-Heinz Rummenigge, qui évidemment a toujours des forçats dans les poches, prend position et il estime qu'on doit absolument continuer le championnat et je le cite, qu'à la fin c'est une question d'argent et que des centaines de millions d'euros vont être jetés au feu. Donc lui, la santé en gros des joueurs, il n'a strictement rien à faire. Dans le même temps, le journal Kicker fait un édito sanglant en disant qu'il faut absolument arrêter la Bundesliga mais qu'en plus il faut arrêter tout de suite, il ne faut pas participer à l'Euro 2020, il faut l'annuler complètement. À 16h, enfin, la DFL, donc la Ligue, prend position en annulant tout simplement cette 26e journée et qu'on se retrouvera peut-être au mois d'avril. Et puis, je voudrais juste rajouter deux petites informations. Une conférence de presse du coach de Fribourg qui résume un peu, Christian Streich, qui résume à peu près tout ce qui s'est passé en Allemagne. Mais c'est quoi ce pays où chacun donne son avis sur des choses critiques, sur des présidents qui décident d'avoir un public, sur d'autres qui décident on continue ou on ne continue pas, etc. Et je finis avec Aki Watzke, qui estime que le football pro en Allemagne va vivre la plus grande crise de son histoire. Donc, c'est pas terrible en ce moment ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire que l'Allemagne s'est rangée à la décision faite dans les autres pays européens, mais au niveau de l'organisation, c'est un bordel monstre. Excusez-moi d'être vulgaire.
Bon, en fait, tout ce que tu nous racontes explique pourquoi les Allemands ont été les derniers à décider, en fait.
Ah, moi je pense, oui. Alors déjà, il y a l'histoire de gros sous. Quand tu vois les déclarations de Rummenigge quand même, ou celle de Watzke qui dit on aurait peut-être, là je vous ai résumé les choses, on aurait peut-être pu faire les choses un petit peu différentes. Ce qui est sûr, c'est que le football professionnel va énormément souffrir, mais que la santé de la population est évidemment prioritaire par rapport aux sportifs. Je rappelle aussi que la chancelière Madame Merkel avait fait une déclaration qui n'est pas passée neutre en Allemagne, que 60 à 70% des Allemands vont être infectés par le par le coronavirus. Je lui laisse l'entière responsabilité, évidemment, de ce chiffre. Mais si tu veux, ça rentre pas dans les oreilles d'un sourd quand tu on te sort ce genre de phrase.
La différence quand même entre l'Allemagne et les autres pays, c'est que c'est en Allemagne qu'on a le plus entendu les joueurs, en fait. Moi, j'attends. On n'a même pas encore vu un joueur sortir du bois en disant publiquement, hein, s'entend. Hein, on sait qu'ils l'ont fait pour certains auprès de l'UNFP. Mais en France, il y en a pas.
Est-ce qu'il y avait vraiment l'utilité? Parce qu'en soi, la décision, elle a été prise assez rapidement.
Oui, certes, c'est enfin, on n'a pas.
Une fois la décision du président de la République, ils n'avaient pas besoin de
justement, le tweet de Thiago Alcantara, où il y a Jérôme Boateng aussi qui a estimé qu'enfin on avait pris les bonnes décisions, où je pense encore une fois quelqu'un qui est moins connu, comme le gardien de l'Union de Berlin, qui dit très clairement, en fait, que nous, qu'ils ont été traités comme des bestiaux, quoi, et qu'il fallait absolument assurer le spectacle, au détriment de la sécurité des joueurs aussi, hein. Encore une fois, quand tu vois ce que déclare Thiago Alcantara et quand tu vois ce que déclare son président, Karl-Heinz Rummenigge, c'est juste deux visions opposées du football et de la décision des décisions qu'il fallait prendre.
C'est ça, parce qu'il va y avoir des petits règlements de compte pour le c'est Simon, salut. Au Bayern, effectivement, Alcantara, c'est très fort ce qu'il dit, parce que la DFL, si j'avais bien compris, avait dit on maintient les matchs à huis clos ce week-end sous réserve d'avis contraire des autorités sanitaires. Donc, comprendre les autorités sanitaires locales décentralisées. Thiago Alcantara, lui, il a dit cette position, elle est folle et irresponsable. Et derrière, il a Rummenigge qui dit ouais, mais attendez les gars, quand même, nous, il faut qu'on gagne un peu de d'oseille. Ça va être compliqué les retrouvailles entre tous ces gens-là.
Ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont bouffer ensemble. Ça va se calmer. Mais si tu veux, quand Karl-Heinz Rummenigge fait cette déclaration, la presse allemande a dit bah ouais, faut bien se payer des Rolex. Tu vois, c'est un petit peu de
Après, ils en ont pas encore.
Oh bah si, mais tu sais, au Bayern, plus il y en a, plus c'est important. Ce que dit Rummenigge est intéressant, parce que ça nous apprend toujours une chose, qu'on va vivre de toute façon. Et encore une fois, on parle de l'Allemagne, hein, qui est pas le pays le moins bien géré financièrement d'Europe. On va enfin comprendre que le spectacle, quand on dit que le football c'est un spectacle, c'est surtout une économie qui est extrêmement fragile. Il va y avoir des impacts énormes sur les clubs de seconde division, des impacts énormes sur les clubs moyens, sur les petits et les moyens, c'est-à-dire ceux en gros qui ont vocation à être en seconde division, en deuxième partie de classement de la Bundesliga. Je parle même pas de la troisième division où il y a quand même plus de 11 000 spectateurs de moyenne, donc c'est pas neutre. Hein, on en parlait, Gilbert, tu sais, sur les recettes guichets, etc. Les impacts vont être énormes. On le verra par exemple si tout cela calme, on verra ça d'ailleurs cet été dans les transferts, parce que dans certains clubs, les 10 millions qu'ils vont perdre là, ils seront pas là pour l'injecter sur le marché des transferts.
Ça, c'est un sujet, alors c'est peut-être un peu tôt pour le faire.
Ah oui,
mais c'est un sujet ultra intéressant, parce que ce qui se passe là, quoi qu'il arrive, va totalement impacter le mercato, les stratégies des clubs, en dehors des droits télé, hein, tout totalement décorrélés. Je veux dire, les moyens vont être revus à la baisse. On peut penser que les salaires dans certains championnats vont être revus aussi à la baisse.
Enfin, t'as les mecs qui sont en contrat jusqu'à fin juin aussi, si les championnats sont prolongés jusqu'à fin juillet ou mi-août.
Il y a deux, trois agents qui doivent...
30 juin, c'est vraiment une date butoir. Ça paraît trop compliqué.
Oui, mais ça pose quand même un problème.
Non, mais comment tu gères ta carrière en fin de saison? Si tu dois jouer deux mois après la fin juridique de leur contrat,
je pense qu'ils ne vont pas jouer. C'est pour ça qu'ils n'iront pas, ils diront pas la 38e le 2 juillet. C'est un truc qui sera impossible.
Okay.
Le 30 juin, c'est une date butoir, justement.
Mais en revanche, pour retrouver un club derrière, pour les joueurs en fin de contrat, transfert, les primes de la signature, là ça va poser des soucis, mais bon, c'est secondaire.
Je voudrais juste rajouter le fait que, quand, évidemment, ils réfléchissent à l'avenir, même si tout ça n'est pas officiel, encore une fois, et qu'ils se murmurent tout de même que l'année prochaine, si le championnat est arrêté définitivement, on va peut-être avoir un championnat à 20 clubs, voire à 22 clubs, c'est-à-dire qu'on garderait, et le titre évidemment n'irait pas au Bayern, c'est-à-dire qu'on aurait les 18 clubs de cette année qui resteraient en Bundesliga, plus 2 ou 4 de la seconde division, et en gros, il n'y aurait pas de relégués.
On n'a pas vu cette situation. Pour les places européennes qui ont
Alors, ils seraient gardés. J'ai adoré quand je me suis penché sur le classement. Tu sais que Leverkusen, son surnom, c'est Neverkusen. Comme par hasard, Neverkusen qui était dans un rush extraordinaire pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions, il se retrouve 5e en ce moment. Donc, ils iront en Europa League. Donc, c'est tout à fait classique.
Mais quoi, la solution privilégiée, c'est on prend le classement tel qu'il est aujourd'hui?
Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est quand on arrêtera la 25e journée. journée, c'est comme ça que ça se passe. Donc par exemple, t'as un Schalke qui était à la ramasse.
Oui, mais tu dis c'est comme ça que ça se passe, mais en France, puisqu'on en a débattu avant que tu sois là pour le cas français, mais il n'y a aucun point de règlement qui existe sur cette question, puisque c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Est-ce que le règlement allemand prévoit ce qui se passe dans ce cas-là?
Non, justement. Donc ils sont en train de réfléchir à différentes.
Voilà.
Alors, voilà. C'est très compliqué parce que si, alors il faut bien comprendre que le championnat allemand, l'histoire du 18 clubs, c'est juste historique, excepté les deux premières années de la création et on n'était pas né, donc c'était en 1963, les deux premiers classements de la Bundesliga étaient à 16 clubs. On est passé dès 65-66 à 18 et la seule fois où on est passé à 20 clubs, c'était juste après la réunification, ce qui est pas un événement neutre. Donc si tu veux, si on refait le côté conservateur des Allemands, leur faire comprendre qu'il faut passer à 20 ou 22, oulala, c'est très compliqué pour eux à l'accepter déjà. Et donc on va essayer de faire quelque chose. Mais si tu passes à 20 clubs, ça veut dire qu'un club comme Hambourg, qui est troisième, ne peut pas monter. Donc il fera faire une troisième année en seconde division. Vu les finances du club historique d'Hambourg, ça risque d'être très très compliqué. Au passage, il pourrait aller en justice, puisque lui, il avait théoriquement troisième droit à un barrage. Donc c'est contre le 16e de Bundesliga. Donc c'est pour ça qu'on parle de 22 clubs et d'amener même le 4e qui théoriquement n'a pas le droit, donc qui serait Heidenheim. Ça serait aussi pour lui extraordinaire, parce que la première fois qu'il monterait. Et donc tout ça va être décidé, mais on aura en tout cas un calendrier 2020-2021 extrêmement compliqué, en supposant évidemment que tout s'arrange, parce que là c'est des prospectives qu'on fait.
Est-ce qu'en Allemagne, à l'image de la France, il y a déjà un président qui est sorti du bois pour dire moi je veux qu'on fasse comme ça, je pense que, ou alors pour l'instant c'est un peu
il y a eu évidemment Rummenigge ou Watzke qui font comprendre, enfin comme par hasard ce sont les deux clubs les plus riches d'Allemagne qui privilégient l'argent sur la santé des joueurs. C'est quand même étonnant quand même ce paradoxe. Mais si tu veux, à partir du moment où il y a une comment je pourrais dire ça, en gros, s'il y a un grand chef qui décide qu'on va dans le mur, et ben ils iront tous dans le mur. Et ça c'est l'organisation allemande, et une fois que le chef a dit, et ben on fait. Et donc lorsque la Ligue décide d'annuler le championnat, et ben on annulera le championnat, même s'il y avait peut-être d'autres hypothèses. Ce qui est sûr, c'est, je te donne un exemple très simple, c'est que la presse allemande a été très très impressionnée par le public parisien en dehors du parc lors du match de Ligue des Champions, et par contre a très clairement dit qu'au niveau sanitaire, c'était quand même pas le truc à faire vraiment. Donc c'était il va falloir un jour qu'on revienne un petit peu sur les choses comme ça, tout en sachant encore que moi j'ai pas de boule de cristal, je sais pas trop ce qui va se passer. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va peut-être se rendre compte qu'il y a un pays, on parlait de pays centralisé, qui a beaucoup de structures médicales, les hôpitaux, etc., le service hospitalier qui est dévoué à ses clients et à ses victimes. Et on va se rendre compte peut-être que l'Allemagne, pays décentralisé, qui n'investisse pas dans les investissements publics, notamment, merci Madame Merkel et ceux qui sont passés avant elle au poste de chancelière ou chancelier, il risque d'avoir beaucoup plus de casses en Allemagne. Et là, je sors évidemment du cadre du football. Voilà, c'est tout ce que j'avais un petit message à envoyer.
Merci Polo.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Polo. Tu pars pas en vacances, hein, tu restes parmi nous. Hein.
Je vais être très honnête avec toi. J'ai perdu un boulot.
Ah bon ?
Voilà. Ben non, j'ai plus le droit de donner des cours. Je suis confiné chez moi. Je parle avec moi-même.
Très bien. C'est avec nous aussi.
C'est beaucoup déjà. Hein,
et par l'intermédiaire de la fleur à la France entière.
Évidemment, je parle à la France entière. Évidemment.
Mais fais attention, ne te parle pas trop. Hein. Des fois, sur certains sujets, tu pourrais être fatigué.
Mais non, je vais déjà essayer d'être d'accord avec moi-même, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, on verra. Merci beaucoup, messieurs. Ciao, bonne soirée.
Salut, le 32-16 est ouvert. Hein. Si vous souhaitez réagir, on reçoit beaucoup de messages ce soir. Tiens, Hussein, notre fidèle du.
Est-ce que tu crois que si je me parle plus seul, parfois, je peux me saouler?
Toi, très vite.
Certainement.
Tu ne pas en podcast. Le podcast qui ne fait pas 10 minutes.
Hussein nous dit « Il ne reste donc que le championnat turc, russe et ukrainien qui joue encore en Europe. » Sachez qu'en Turquie, c'est à huis clos. Hein. Mais bon, il continue.
Bah, il continue, les Turcs. Il n'y a pas un after là-dessus, dis donc.
Bon, on peut.
Il y avait des supporters, en revanche, jeudi encore Ligue Europa en Turquie.
Exactement. C'est vrai, ça fait partie des suggestions. Alors j'ai lancé le hashtag mon after.
Je rigolais, ils sont pas là dessus.
C'est intéressant, il se passe plein de trucs. Franchement, ça m'intéresse. L'économie du championnat turc, comment ça fonctionne. Franchement, et les histoires de dingue. Quand tu nous racontais les after turcs, là, où ils font 5 minutes sur le jeu, 50 minutes sur l'arbitrage. Franchement, je veux en savoir plus, moi.
Ah, appelle Hussein, c'est tout.
Donc je disais, on vient de lancer un hashtag, hashtag mon after. Donc pour envoyer vos propositions pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, parce qu'on est sur l'autre partie pour trois semaines, un mois.
Il faut du lourd. Hein.
Non mais attends, bon, je me fais aucun souci, il y a tellement de dossiers qu'on n'a jamais voulu faire. D'ailleurs tiens, je peux déjà vous en annoncer un. Gros dossier sur l'AS Monaco à venir la semaine prochaine avec Eric Huet.
J'ai l'impression que tu as annoncé sera le avec truc nous. Le plus énorme de la
Eric
Terre.
Huet, Eric Huet, c'est le spécialiste de l'AS Monaco, il sera dans l'after et on pourra enfin faire ce fameux sujet. Monaco est-il toujours un club de foot ou une machine à fric?
Ah, on l'a déjà fait ça.
Ah mais là avec Eric Huet c'est pas pareil, parce que lui il a des infos, il va t'expliquer les arcanes, le contexte, tout ce que tu ne sais pas. Pas le passionné d'avance, Daniel.
Il est jaloux parce qu'il n'a pas les infos.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est pas ça. Ça me fait penser que je dois lui filer un cadeau depuis au moins 6 mois, Eric. Un cadeau monégasque et ce sera le moment de lui donner.
Ben voilà, il sera avec toi lundi.
C'est plus le temps que j'oublie. Chaque fois que je le croise, j'oublie.
Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
Alors, pareil, il faut que tu nous racontes la journée en Angleterre parce qu'il s'est passé 1000 choses entre hier soir où. Il y avait confirmation hier soir, assez sereine, de la suite de la Première Ligue. À moins de 10 heures plus tard, on arrête tout.
Tout à fait. Parce que rappelle-toi, dans l'after hier, juste avant que je quitte l'émission pour aller à la télévision, on avait eu ce communiqué de la Première Ligue qui nous disait en fait, en gros, on fait comme si de rien n'était. On continue le foot avec public. Tous les matchs seront joués en Première Ligue ce week-end. On inclut le derby de Liverpool le lundi qui pourrait donc décisif pour le titre, qui pourrait faire remporter le titre à Liverpool. Le Tottenham Manchester United décisif aussi dans la course à la Ligue des Champions le dimanche après-midi. Tout ça, aucun problème. Et puis après, quelques minutes après mon départ, on apprend que Mikel Arteta est donc contaminé, a contracté le virus. Et là, ça change tout, puisque c'est la sonnette d'alarme en fait. C'est vraiment à partir de là que tout a basculé. Et ça va de réunion en réunion, à la Première Ligue, à la Fédération Anglaise, entre les clubs, beaucoup d'appels entre présidents de clubs ou entre propriétaires de clubs et la Première Ligue commence à prendre des décisions. Donc d'abord le match Brighton-Arsenal a été le premier reporté donc de samedi après-midi, mais les autres devaient avoir lieu à ce moment-là avant que la décision la plus juste finalement ce matin arrive peu après-midi, où la Première Ligue a décidé de suspendre tous les matchs jusqu'au 3 avril au minimum. Il pourrait le prolonger comme dans les autres championnats européens finalement. Ce qui était très intéressant dans cette réunion aussi, c'est qu'on a demandé au club s'ils voulaient qu'on prépare peut-être la suite de la saison ou s'il fallait définitivement arrêter la saison et annoncer, décréter cette saison blanche, un petit peu comme Jean-Michel Aulas vient de le faire pour la Ligue 1. Et deux clubs ont dit que ce serait bien que cette saison ne serve à rien.
Manchester et Tottenham.
T'en as un sur les deux.
Tottenham, non?
Ah oui, parce que José Mourinho s'est dit attends, je suis huitième.
Bah Mourinho, si je peux, évidemment.
Eh oui, évidemment. Et l'autre c'est West Ham qui lutte contre la relégation, pour qui ce serait dramatique de descendre en deuxième division par rapport à déjà leur la masse salariale de cette équipe, de cet effectif, par rapport à leur stade, le stade olympique et tout ça. C'est les deux clubs qui, selon nos informations, auraient dit aux 18 autres non, ça sert à rien cette saison, autant qu'elle soit blanche et qu'on reparte l'année prochaine avec les mêmes clubs en Coupe d'Europe, un petit peu à la Jean-Michel Aulas.
Il n'y a pas de frontière pour ces.
Il n'y a pas qu'en France, non. Ah ouais.
C'est
exactement.
Génial.
Il y a ceux que ça arrange plus que d'autres, quand même.
Et mais alors ça fait polémique en Angleterre. Il y a des mecs qui disent, j'aurais mieux fait de se la fermer, cela, ou alors ça passe.
Alors ça fait plus sourire parce que. Un peu comme vous l'avez fait, c'est assez facile finalement de deviner qui voulait que ça ne compte pas, mais ils ont aucune chance de gagner quoi qu'il arrive, parce qu'à la majorité de toute façon la Première Ligue ou les clubs de Première Ligue l'emporteront, et si la saison peut se terminer, elle se terminera comme dans les autres championnats, j'imagine, et comme pour les Coupes d'Europe. Donc à ce niveau-là, ils gagneront pas. Ça fait sourire les gens parce qu'effectivement José Mourinho, il est toujours là à l'affût de la moindre arnaque pour pouvoir aller dans son sens et sauver sa saison par exemple, comme il aurait très bien pu le faire là si la saison était décrétée blanche quoi.
Bon, on a. Vous avez une question pour Julien?
Ouais, moi, Julien, salut, c'est Simon. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu. J'ai vu passer cette info comme quoi le boss de la FA, la Greg Clark, aurait dit ce matin à la réunion avec les clubs qu'il y avait de fortes chances pour que la date de début avril, elle soit repoussée plusieurs fois et voir que la saison ne reprenne finalement pas. Est-ce qu'on parle de ça en Angleterre?
Ouais, on parle de ça, c'est possible. On se dit que jusqu'à septembre, on pourrait ne pas avoir de football, par rapport à ce que les selon les scientifiques, que vu comment le virus pourrait se développer, ça pourrait effectivement être très compliqué. Alors ça, je pense que c'est là, ils ont prévenu les clubs, ça pouvait être le pire scénario, en fait, si tu veux, en espérant que d'ici un mois, six semaines peut-être, on puisse essayer de retrouver, de réorganiser un calendrier plus ou moins viable, si tu veux, et qu'on arrive quand même à terminer la saison. C'est dans l'intérêt de tout le monde finalement, parce que comme on en a aussi déjà souvent parlé financièrement, notamment pour les clubs de deuxième, troisième et quatrième division, même si c'est des clubs professionnels ici en Angleterre, pour eux ce serait catastrophique. Il leur reste entre 5 et 6 matchs à domicile selon les clubs. Pour les petits clubs, tu perdrais quand même près de 300 000 euros qui pour eux, pour leur budget à eux, c'est énorme quoi. Et donc on réfléchit déjà au niveau de la Première Ligue à ce que les clubs de Première Ligue et la Première Ligue en elle-même fassent un fond, si tu veux, pour les petits clubs, pour les plus petits clubs, les Port Vale, les Shrewsbury, les Grimsby, et qui eux, si vraiment étaient en danger limite de mettre la clé sous la porte, pourraient bénéficier de ce fond là pour pouvoir survivre à ces matchs où ce manque à gagner serait assez incroyable.
Alors tiens, dans ce marasme général, il y en a un qui veut parler de foot, c'est Aboudé, qui est supporter de Manchester United, et qui doit se dire, mince alors, c'est pile au moment où on devenait invaincu que tout ça s'arrête. Aboudé, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, salut à tous.
Salut Aboudé.
Tout d'abord, merci d'être là. Franchement, je ne vous cache pas que vous êtes notre rayon de soleil du soir, parce qu'il n'y a plus de foot, je ne vous cache pas que moi je suis en semi-dépression.
C'est pour ça qu'on ne bouge pas nous, on reste là, on dort là.
C'est ça, pardon, je fais un petit digression.
Arrête de dire ça, pourquoi la poste qu'on soit pas confiné. Je veux bien être là tous les soirs, mais pas dormir là.
Voilà, parce que même nous, à la fac, c'est un peu compliqué. Moi, je fais du droit, c'est un peu chaud là au niveau pour la suite, on sait pas trop ce que ça a donné.
Bah oui.
Voilà. Donc moi, je voulais parler de Manchester United parce que ça fait un mois à peu près, depuis le match retour contre Chelsea, que je nous trouve assez séduisant. Bruno Fernandes, franchement, très bonne pioche. Et puis voilà, nous on jouait bien, on gagnait les matchs, Martial y marquait à tous les matchs quasiment, etc. Bon, là, c'est un plan de parenthèse, quoi. Donc, qu'est-ce que Julien pense de la nouvelle tactique qui est en place, de tout ça, quoi, finalement, parce que franchement, nous on est surpris, hein, de la saison, on s'annonçait plutôt morose. Et puis il y a eu un peu un renouveau, un peu inattendu, quoi. Moi je vous cache pas que je m'attendais pas à grand chose depuis janvier, quoi. Donc
Julien, ton avis ?
Alors tu as raison, ça fait 11 matchs maintenant, 8 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues, donc entre la Coupe d'Angleterre, l'Europa League et le championnat. La défaite à Burnley, contre Burnley à domicile, je pense que c'est vraiment celle qui a fait prendre conscience à Solskjaer, mais aussi aux joueurs, de la gravité de la situation à un moment, parce qu'à un moment on vous a vraiment vu. En temps de crise, c'était vraiment la crise. C'était limite même pour la Ligue Europa, ce serait difficile de se qualifier. Et je pense que cette défaite à domicile contre Burnley, elle a vraiment fait prendre conscience à tout ce groupe et au club en entier et à Solskjaer aussi qu'il fallait changer quelque chose. Alors Bruno Fernandes, bien sûr.
Bah ouais, j'allais dire. Bien sûr, il est là aussi. Hein.
Ah ouais.
Bien sûr, il est là. Mais pas seulement, parce que défensivement, ils sont très très forts depuis cette défaite contre Burnley notamment. Ou que ce soit une défense à 5 ou une défense à 4, ça marche plutôt bien avec Maguire qui est devenu capitaine, qui a pris ce brassard, mais pas simplement pris le brassard, qui a vraiment pris une autre dimension, qui s'est installé dans ce rôle, qui est un rôle très compliqué à Manchester United. Si tu penses à tous les anciens capitaines qu'il y a eu dans ce club, c'est pas facile. C'est assez impressionnant de récupérer ce brassard dans ce stade à Old Trafford, quand c'est toi qui rentres le premier, qui sort de ce tunnel au point de corner là. C'est vraiment impressionnant. Et je trouve que, qu'on soit un fan de Maguire, qu'on pense qu'il a coûté trop d'argent, etc., peut-être, mais la façon dont il a pris ce brassard, qu'il s'est approprié ce rôle et qu'il a grandi avec ce brassard, c'est assez impressionnant. Et depuis, défensivement, ils sont très solides. Offensivement, avec Bruno Fernandes, il a changé beaucoup de choses par son talent déjà, mais par son mouvement et tout ça. Et puis, il prend ses responsabilités.
Franchement, il prend ses responsabilités. Les coups francs, les pénaux, enfin moi, c'est ce qui m'impressionne.
Ah, d'ailleurs, il a intégré le plan de ceux qui tirent les pénaux de façon bizarre.
Avec son petit saut de cabri.
Comme Jorginho.
Comme Jorginho, un peu, tout à fait. Mais tu sais, c'est plus facile pour lui.
Jamais aucun.
Voilà, et dans un style différent comme Neymar. Enfin, ceux qui ont une façon de tirer un peu particulière.
Je sais pas s'il le faisait déjà. Je pense pas qu'il.
Oui, si, il le faisait déjà.
Il a eu quelques matchs.
Il a une technique. Parce qu'en fait, ça lui permet de gagner peut-être une demi-seconde où il voit le gardien.
Exactement.
En fait, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Je ne tirais pas les pénalties, donc je peux pas vous dire ce que ça fait chez lui. Mais certainement, s'il se sent à l'aise comme ça, c'est comme Neymar qui attend vraiment au dernier moment.
Moi, je vais essayer de voir. Je vais demander à Jean-Louis de faire un essai. Je le fous au but. Je vais essayer.
Les gars, mais
Jean-Louis, il plonge pas.
Il faut filmer. Quand tu fais ça,
Jean-Louis, il part toujours dernière limite. Tu l'auras pas, Jean-Louis.
Au pénal, il pleut.
Très
pas.
Fort sur les pénaux, Jean-Louis.
Mais qui c'est très fort.
Très fort sur les pénaux. Combien de fois on est passé en coupe aux séances de pénaux
par Jean-Louis? Déjà, le temps qu'il descend au sol, le match est fini.
Daniel, trompe-toi.
Tu rigoles ou quoi? Match de l'after, c'est lui qui nous sauve le match au pénalty.
Et voilà.
C'est vrai. Bon, enfin, bon, moi, je fais un 10 sur 10 contre lui.
Bon, enfin, c'est quand même un miracle.
Attends,
pour revenir sur ce que tu disais, Julien, Maguire, il a été adoubé par Roy Keane, qui a dit que ça pouvait devenir un grand joueur de Manchester United. C'est quand même pas tous les jours que ça lui arrive à notre ami Roy Keane de dire du bien de ses successeurs. Et Bruno Fernandez, là, c'est une question que je te pose. J'ai vu dans le Daily Mail un article comme quoi le vrai miracle de Bruno Fernandez, ce serait qu'il aurait donné envie ou convaincu Pogba qu'il y avait un avenir dans cette équipe de Manchester United et qu'il serait d'ores et déjà prêt à re-signer. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi?
Alors oui, j'ai vu cet article dans le Daily Mail. C'est pas les informations que j'ai, c'est que pour l'instant il n'y a pas eu de discussion ou en tout cas pas de volonté de la part de Mino Raiola ou de Paul Pogba d'aller chercher un nouveau contrat à Manchester United. N'oublions pas qu'il lui reste encore donc la fin de cette saison là, la saison prochaine à Pogba, mais aussi que le club et simplement le club sans l'accord de Pogba peut aussi lui déclencher une année supplémentaire après s'il le souhaite. Donc déjà financièrement en cas de transfert, ce serait complètement différent. United pourrait s'appuyer sur un contrat encore de 2 ans et demi et pas simplement d'un an et demi ou d'un an ou de 2 ans à la place d'un an à la fin de la saison si tu veux. Et c'est vrai que Pogba lui est très excité à l'idée de jouer avec Bruno Fernandez. Et juste pour rebondir sur les responsabilités de Bruno Fernandez, c'est aussi plus facile d'arriver dans un club comme ça et de prendre tes responsabilités quand il y a personne qui les prend. Il n'y avait pas de leader quand tu arrives, tu vois.
Je sais pas si c'est si facile ce que tu es en train de dire, Julien. Je sais pas.
Bon, faut qu'on conclue, les gars.
Mais c'est plus. Non, juste pour finir, je pense que c'est plus facile d'arriver dans une équipe qui n'a pas de leader et d'en devenir le leader que d'arriver dans une équipe qui a déjà, on va dire, 3 ou 4 leaders et d'essayer de te faire une place dans ce leadership-là, dans ce groupe de leadership.
Faire Griezmann.
Je sais pas.
On en reparlera. Merci Julien.
Merci les gars.
Merci à Aboudé également.
Le 9 sur 10 sur une série, une entrecôte en jeu.
Franchement, t'as perdu. Je te le dis, celui t'as perdu.
Bah mets-toi dans le pari.
Je mets dans le pari, je mise sur Jean-Louis.
À 2 contre 1 l'entrecôte.
Ah bon, allez.
C'est parti.
On en parle à Jean-Louis
on met ça en route, ce sera filmé.
Deux choses importantes. Déjà, les propositions d'after de sujets tombent. Il y en a des drôles aussi, comme par exemple Tav qui nous dit
ce genre de défi là.
Tav nous dit on pourrait faire un after spécial sécurité routière avec Jérôme Rotel et Mbaye Niang par exemple. J'aime bien.
Parce que Milan Baro sera plus compliqué à toi.
J'aime bien l'idée.
Les meilleurs stages de récupération de points.
Voilà.
Où il se trouve.
Et là, pour être un peu plus sérieux, un tweet ce soir de Dimitri Payet.
Ah énorme, j'adore. Ouais.
Qui lit sur les déclats d'Olas, donc il retweet une partie des déclats d'Olas et il dit mais il est sérieux celui-là, il a craqué, il faut prendre sa température vite. C'est quoi le classement actuel après 28 journées? Ah d'accord, j'ai compris, bien tenté. Voilà.
Ouais. Ça veut dire que ça va faire un peu de bruit.
Voilà ce que dit Dimitri Payet qui envoie sur Jean-Michel Aulas. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec l'Italie, avec l'Espagne et avec le quiz. 32-16 pour vous inscrire. À tout de suite.
RMC, 21h30, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Avec Simon Dutin ce soir, avec Damien Perinel, avec Daniel Riolo, et notre Tour d'Europe continue. On va accueillir Fred Hermel et Simone Rovera. Fredo, bonsoir.
Hola chicos, salut les amis.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Les évolutions chez vous aujourd'hui, on va démarrer par toi, Simone. Alors, il y a des joueurs de plus en plus touchés par le coronavirus. Hein. Aujourd'hui, encore d'autres à la Sampdoria et à la Fiorentina.
Oui, il y a une nouvelle liste qui malheureusement s'ajoute. Il y a 4 joueurs en plus à la Sampdoria et 1 joueur à la Fiorentina, qui est Dusan Vlahovic. Donc ça a des conséquences un peu sur toutes les équipes. À partir d'aujourd'hui aussi, l'Udinese a mis tous les joueurs, l'Udinese dernière équipe qui a joué face à la Fiorentina, tous les joueurs, on peut dire, dans une quarantaine. Donc voilà, les clubs ne s'entraînent plus. Ils sont tous à l'arrêt jusqu'au moins à lundi prochain, attendent de voir s'il y aura d'autres cas et qu'est-ce qui va se passer s'il y aura d'autres positifs. Et les foot, aujourd'hui, les seules choses qui concernent les foot, c'est les réunions qu'il y a à la Ligue de football pour imaginer qu'est-ce qui va se passer au retour à la normalité. Aujourd'hui, le ministre du Sport a parlé de la moitié moitié d'avril, si tout se passe bien, pour reprendre un peu l'activité, en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'UEFA et les autres compétitions. Mais voilà, la première date qui a été sortie dans cette point d'interrogation énorme qu'il y a en Italie, c'est la moitié d'avril, comme a dit le ministre Spadafora. Et pour le reste, il y a tout le monde de football qui cherche de se mobiliser pour accueillir des fonds, de aider les hôpitaux, comme a fait Insigne, comme a fait la Rome, l'Inter, la Juve. Et ça, c'est le football qui bouge beaucoup pour le pays italien.
Oui, il y a beaucoup de clubs également qui ont mis en ligne des vidéos. Avec les gestes évidemment à adopter au quotidien. En Italie, ça s'est fait assez vite. Le PSG en a fait une aussi aujourd'hui d'ailleurs, avec Mbappé, Marquinhos. Voilà, ça fait partie notamment de toutes ces initiatives. Est-ce que Simone, il y a débat comme en France, lancé par Aulas, sur la suite.
Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête?
Voilà. Ou alors, pour l'instant, on n'en parle pas.
Non, on en parle. C'était sorti déjà dans le premier Conseil fédéral de mardi.
Ah oui, les fameuses propositions. Ouais.
Voilà, il y avait des hypothèses, mais ça devait être discuté encore par un prochain Conseil fédéral. Et après, c'est la Ligue qui va décider. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une jurisprudence pour ça. L'idée, ce qui est sorti aujourd'hui dans une vidéoconférence, Conseil de la Ligue italienne en vidéoconférence, la Ligue a fait une communiqué où il disait on veut terminer la saison, on veut essayer de terminer quand même la saison, et l'idée c'est de quand même ne pas faire des play-offs, de trouver vraiment une solution, et c'est pour ça que la Ligue apparemment, comme la Fédération italienne, aurait demandé encore plus les reports de Euro 2020 pour avoir les dates pour finir la saison.
Fred,
oui,
la journée chez toi, déjà t'es rentré déjà?
Ben oui, puisque comme je viens de passer quelques jours...
Limite, parce que bientôt, ce sera plus possible, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, là, on est dans une situation catastrophique. On est dans une situation qu'on qualifie ici à l'italienne, mon cher Simone.
Et qui s'est précipité, Fred, parce qu'au début...
Mais il s'est précipité à cause de l'incompétence beaucoup, du gouvernement espagnol, il faut le dire.
Non, mais voilà, c'est ça.
Le gouvernement central a fait n'importe quoi.
Pourquoi ?
C'est ça qu'on se plaint beaucoup.
Parce que le gouvernement central a été totalement irresponsable. Il y a encore 3 semaines, je vais essayer de pas m'énerver, le directeur général de la santé disait mais non, en Espagne il y aura un petit cas, il faut pas avoir été avec un côté un peu branleur, crâneur et tout.
Au début, la ministre de la santé française qui était encore en poste à l'époque avant de devenir candidate à la mairie de Paris.
Mais c'était largement avant.
Elle aussi avait dit en France,
oui,
je ne pas
ça, c'était il y a très longtemps. Mais enfin, là je peux te dire que moi,
tout le monde s'est foutu la gueule de ce qui s'est passé en Italie.
J'ai écouté mon président hier. Et quand j'entends le président du gouvernement espagnol, je peux vous dire, c'est pas la même division, quoi. Là, c'est pas la meilleure Liga du monde ici, ça je peux vous le dire. Alors, heureusement, Madrid, c'est terrible. Moi, par mes relations diplomatiques françaises, je peux vous dire que ce qui va arriver en Espagne la semaine prochaine, c'est terrible. On va faire exploser les 10 000 cas, dont la moitié à Madrid. Voilà, le maire de Madrid et la présidente de la région de Madrid font le boulot. Franchement, c'est bien, mais là, on est dans une ville fantôme. Moi, j'ai l'impression de vivre ce que Simone vit depuis plusieurs semaines. Et je suis là que depuis quelques heures. Voilà, dans les supermarchés. Là, tout, à partir de demain, tout sera fermé. Les bars, les restos, les commerces.
Ça s'est accéléré une vitesse folle en Espagne.
Ça s'est accéléré une vitesse folle parce qu'il n'y avait pas de précaution avant. Il suffisait simplement de regarder l'Italie. Mais ici, comme si ça
n'était pas arrivé. Tu te souviens, en plus, Fred, on en a parlé quand t'es venu sur le plateau de Champions Zone, puisque je t'ai même dit, je viens à Madrid le 26, là, pour les gros de la série de gros tournois de poker. Et tu m'as dit, ah ouais, d'accord, 48 heures après, même pas question qu'on vienne, tout était annulé, c'était fini.
Là maintenant, tout est fermé, seul reste ouvert les pharmacies, les supermarchés, les stations-service et les bureaux de tabac et les kiosques à journaux. Donc voilà, on entre dans une période très très compliquée. Heureusement, sincèrement, la région madrilène, la ville de Madrid parle de concerts, ils travaillent. Ils commencent déjà à travailler à la médicalisation de certains hôtels parce que les hôpitaux risquent de déborder. Donc voilà, moi je suis confiné chez moi, j'ai de la
chance. Et le gouvernement est critiqué par la population.
Ah oui, non, mais c'est catastrophique parce que ce qu'on a appris, c'est que la ministre de la Santé samedi a demandé au président du gouvernement de ne pas autoriser les manifestations féministes du 8 mars et qu'elle s'est fait renvoyer dans ses 22.
C'est qui le gouvernement en Espagne?
Alors, c'est un gouvernement socialo-podemos.
Ah, d'accord, c'est vrai.
Voilà. Il y a eu un décret royal, non ? Je dis une connerie
Mais décret royal, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, puisque ça s'appelle un décret royal, mais le roi n'a aucun pouvoir.
Ok.
Le roi a zéro pouvoir en Espagne. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, on appelle ça un décret royal parce que c'est une royauté, mais c'est le Parlement et le gouvernement qui décident, quoi, là-dessus.
Il y avait vraiment une opposition entre la Ligue espagnole et la Fédération, grosso modo.
Oui, ça c'est vrai. Oui, parce que Tebas, le président de la Ligue, au départ, voulait simplement attendre les ordres du gouvernement et du ministère de la Santé, qui au départ parlait simplement d'un huis clos.
Alors que la même chose en Italie, hein. Entre Fédération et Ligue, c'était la même chose. La Ligue pensait plutôt aux affaires d'argent, voilà. Et à défendre les produits football. Et la Fédération, c'est la première qui a dit on arrête.
Et là, la Fédé a. Voilà, de toute façon, là, il n'y a plus de vie, là, tout est fermé. Moi, je suis enfermé chez moi, alors je suis ravi de vous parler. Et on va beaucoup se parler ces prochains jours, ça va nous dire compagnie. Mais sincèrement, je commence à comprendre, là, alors que j'ai atterri à 14h30, ce que Simonet, mon grand ami Simonet, est en train de vivre. Simplement, je peux vous assurer, voilà, parce que là on est au-delà du sport. La France et l'Espagne, on n'est pas dans la même division. Je peux vous assurer qu'on a un grand président, on a un grand gouvernement par rapport à ce qu'il y a ici, sincèrement.
Merci, messieurs.
Voilà. Et un petit mot. Toujours pas de footballeur contaminé pour l'instant. Reste qu'un joueur de basket du Real. Mais pour l'instant, mais ça va arriver, hein, c'est évident.
Merci les gars, bonne soirée.
Salut les amis.
Et à très vite dans l'after. Deux, trois infos les gars avant le quiz. Vous dire rapidement que aux États-Unis, le président de la Fed a démissionné. Vous savez les histoires de l'égalité des salaires entre les joueuses et les joueurs. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Hein, les Américains, ce serait pourtant assez simple à mettre en place. Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, les filles génèrent plus de business. Enfin, l'équipe nationale, hein, je parle féminine, génère plus de d'argent que l'équipe masculine.
Il me semble que c'est le maillot de l'équipe nationale le plus vendu.
Et pourtant, les filles gagnent beaucoup moins que les garçons.
Dans ce cas-là, c'est absolument une prise de position logique.
Et là, la Fédé a justifié ces derniers jours l'écart salarial par l'hostilité plus grande du public lors des matchs de foot masculin. Fallait quand même aller le chercher cet argument-là.
C'est plus dur de jouer contre les supporters.
Il dit vous comprenez, les garçons, il y a quand même plus d'hostilité dans le stade, donc c'est normal qu'ils gagnent plus. N'importe quoi. Le président de la Fédé a du coup démissionné.
C'est un peu con, là.
Voilà.
Alors la différence, c'est que c'est l'équipe nationale qui génère du business. Donc tu vas mettre une bonne rémunération aux 22 joueuses qui composent l'équipe nationale ou à tout le championnat.
Oui, mais il faut au moins qu'elles aient au moins autant que les garçons qui représentent l'équipe nationale. C'est ça leur combat.
D'accord.
Et surtout, l'argument, en plus, il est affligeant parce qu'on ne progresse pas, c'est bien sexiste à souhait. C'est tout
comme il faut.
Oui, mais dans ce genre de combat, le truc, c'est qu'on ne devrait pas se soucier ni.
Tu ne devrais même pas rentrer dans les explications.
En fait, on ne devrait pas se soucier des affaires de. C'est tout ce genre de combat, à partir du moment où on veut coller le sexe, la couleur, le machin, t'arrives dans des discriminations à l'envers. Ouais. On devrait juste regarder, tout simplement. Effectivement, c'est anormal si elles génèrent plus de blé, qu'elles aient pas le blé qu'elles méritent par rapport à ce que gagnent les hommes. On devrait juste avoir un rapport économique. Vous générez du blé, c'est normal que vous touchez. Parce que imagine si en France, on vient te dire les joueurs de l'équipe de France doivent toucher autant que les mecs. Ah, c'est absurde. Si les joueuses de foot devant leur championnat demandent une égalité salariale.
Ça dépend sur quel plan tu te places. Si tu te places effectivement sur le plan de l'argent qu'elles génèrent, ça se justifie pas. Mais si tu te places sur un plan éthique et moral, tu peux dire pourquoi pas.
Mais au nom de quoi?
Après, j'avais pas prévu qu'on fasse un débat.
Il faut déjà savoir que les joueurs de Lyon vont toucher. Que la Fédé décide. Ouais, mais le problème, c'est que la Fédé, elle donne pas réellement de l'argent aux mecs.
C'est de la
redistribution de sponsors, en fait.
Je sais pas. On n'a pas enquêté sur le sujet. Je pense pas qu'il y ait égalité de primes.
Non, mais le joueur, il est pas salarié de la Fédé. Non. Il a de la redistribution de primes.
C'est les primes, c'est ça.
Oui, mais ce que génère l'équipe de France de foot au niveau de ses contrats quand ils font une compétition, c'est x10 par rapport à ce que génèrent les nanas.
Encore deux petites histoires, rapidos.
Non, oui ou non.
On n'a pas de temps. Ronaldinho toujours en tôle au Paraguay. Il n'arrive pas à sortir de son histoire.
Il paraît qu'il y a des bastons pour le garder dans son équipe de foot dans la prison. Il paraît que ça fout la merde dans la prison parce que les gars qui qui l'ont dans leur équipe veulent pas qu'ils changent de quartier dans la prison.
Et puis la nuit dernière, match de Copa Libertadores, derby de Porto Alegre entre le Grêmio et l'Internacional, baston général, 8 cartons rouges.
Ah merde.
Voilà, c'est comme ça les derbys au Brésil. Finalement, chez nous, c'est plutôt calme. Dans quelques instants, on est de retour avec le quiz.